Que faites-vous de vos morts? Dans votre agenda, vous écrivez « mort » à côté du nom, vous dessinez une croix, une tombe, vous ajoutez la date du décès, vous raturez, vous recouvrez le nom avec du Tipex, vous ne faites rien, vous avez une méthode personnelle. Dans un carnet d'adresses électroniques, vous effacez le nom, vous l'effacez tout de suite, vous l'effacez quand vous ne pensez plus aux morts, quand vous y pensez trop. Vous effacez un ami lointain, mais vous n'effacez pas votre mère. Que ressentez-vous quand vous cochez la case « supprimer le contact » ? Sophie Kahl est ce soir notre invitée à l'occasion à la fois de ses 5 expositions à Marseille et de la publication de son nouvel ouvrage intitulé « Que faites-vous de vos morts ?» Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec Laurie Anderson.
Oh, Superman. Oh, Mom and Dad. Mom and Dad. Oh, Superman. Oh, Mom and Dad. Mom and Dad.
Hi. I'm not home right now, but if you want to leave a message, just start talking at the sound of the tone. Coming home. Hello? Is anybody home? Well, you don't know me, but I know you. And the voice said, neither snow nor rain,
nor blue light shall stay these hoary years from the swift completion of their appointed round.
Pourquoi, Sophie Kahl, à l'âge de 6 ans, quand vous alliez chez vos grands-parents, vous vous mettiez toute nue dans l'ascenseur avant de rentrer dans l'appartement ?
Je devais avoir plaisir de me déshabiller ou le plaisir d'être regardée. C'est un petit peu vieux pour que je me souvienne exactement de ce que je ressentais. Sûrement une certaine excitation.
Ben justement, de l'enfance, vous vous souvenez beaucoup ?
Je me souviens très très peu. Je débribe comme ça, qui reviennent miraculeusement. Mais...
Par fragments ?
Oui. Par exemple, je me souviens très très bien de la joie de traverser le couloir nu.
Le désir d'être nu ?
J'ai toujours aimé me déshabiller, puisque j'étais stripteaseuse assez longtemps.
Vous avez commencé tard pour une stripteaseuse, Sophie Kahl, 27 ans ?
Oui. Ben, moi, j'ai commencé à 6 ans.
Et alors, pourquoi vous êtes devenue stripteaseuse ?
Ah, c'était surtout pour gagner de l'argent, parce que j'arrivais en France, je n'avais pas de métier, et c'était très très bien payé. C'était payé à l'époque 400 francs par jour, ce qui était une somme assez importante, surtout que c'était tous les jours. Et puis, j'aimais ça, et puis j'avais peur de le faire, et je pense que j'avais envie de me prouver que j'étais capable de faire quelque chose qui me faisait peur. Donc je pense qu'il y avait aussi d'où je venais, c'est-à-dire le féminisme, des parents plutôt chics comme ça, c'était pas évident. Mon père trouvait que ça donnait une très vilaine image de moi, par exemple.
Ah, parce que vous lui avez dit ?
Oui, je lui ai dit. Je lui ai dit quand c'était fini, parce que je pensais qu'il allait l'apprendre et qu'autant le dire moi-même.
Quand c'était fini, donc il n'a pas pu venir vous voir faire la stripteaseuse.
Non, mais il ne serait jamais venu de toute façon. Ma mère est restée. Ma mère, je l'ai proposé à ma mère, mais elle est restée à la porte. Elle n'a pas voulu rentrer.
La peur et le plaisir sont-ils indissolublement liés pour vous, Sophie Kahl ?
Pas forcément, mais ça ajoute quelque chose. Oui, je sais que par exemple, quand je faisais la suite vénitienne, que je suivais des gens que je ne connaissais pas, le fait d'avoir à prendre des photos, donc de m'approcher plus près, donc d'avoir plus peur, faisait partie du plaisir.
Donc c'est la sensation de danger qui excite le plaisir.
Oui, je ne pense pas systématiquement, je n'ai pas réfléchi à cette question, mais y a, le danger, il est quand même tout relatif là. Je n'ai pas l'impression d'avoir pris des risques mortels.
Alors dans la suite vénitienne, vous faites allusion à une de vos expériences que vous avez menées il y a maintenant 2 ou 3 décennies. À peu près, vous étiez dans un hôtel à Venise. Vous êtes fait engager comme...
Non, enfin, ce sont 2 histoires séparées. Je suivais un homme dans les rues de Paris parce que justement, je revenais d'un long voyage. C'est à ce moment-là que je suis devenue stripteaseuse. J'avais un petit peu perdu mes habitudes à Paris. Je ne savais pas trop où aller, donc je suivais des gens simplement pour voir où ils m'emmèneraient, pour comme ça dériver dans la ville. Il n'y avait pas de but artistique, en tout cas conscient.
Vous étiez en perdition ?
J'étais en perdition, oui. Oui, j'étais partie pendant 7 ans, cette année consécutive, et je ne savais pas tellement quoi faire de ma vie. Et donc, je suivais des gens.
Pour vous raccrocher à eux et essayer, d'après leur propre histoire,
l'énergie que je n'avais pas à mes journées, pour que leurs déplacements servent de moteur, parce que je n'avais pas suffisamment d'envie le matin pour me dire que j'allais faire ceci ou cela, et que le fait d'établir une règle du jeu... C'est-à-dire, j'irai où vont ceux qui sont dans la rue, que je vais choisir, faisait que je n'avais plus à me poser de questions. C'était une manière de voir les journées se dérouler sans avoir à décider. C'est-à-dire, le fait d'établir la règle du jeu fait qu'après, on peut être passif et juste se laisser aller.
Mais vous aimez les contraintes. Elles sont créatrices pour vous.
Oui, elles sont créatrices, absolument.
À partir de quand vous avez décidé de revenir en France et pourquoi avez-vous quitté la France pendant 7 ans ? Pourquoi faire ?
Parce que c'était dans l'air du temps, parce que on voyageait, que j'étais d'abord je suis, enfin voilà, j'étais hippie, on avait fait une communauté, ça faisait partie de, et puis ensuite j'ai voulu voyager comme font enfin les adolescents, c'était pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Moi, c'est la durée qui a été exceptionnelle, mais pas l'envie de partir.
Et au retour en France, tout d'un coup, vous êtes dit,
je vais peut-être rester là. Au retour en France, j'avais pas de métier, j'avais pas d'amis, puisque je les avais perdus, j'étais plus la même, surtout. J'avais pas de projet. Et j'avais vécu, juste avant de rentrer en France, à la maison d'une photographe en Californie. Donc, j'avais joué avec ses appareils photo, avec son petit laboratoire pour développer des images. Et ça m'avait plu d'être dans le noir, de développer des photos, d'en faire, voilà. Je sais pas à quel point ça me plaisait, mais en tout cas, je n'avais que ça à quoi m'agripper. Donc, je l'ai fait. Au début, je crois que c'était faute de mieux. Puis ensuite, ça a pris.
Vous aimez les inconnus, l'inconnu ?
J'aime, oui, comme tout le monde aussi.
Tout le monde n'aime pas autant que vous, Sophie Kahl, les inconnus, et tout le monde n'est pas prêt
si, tout à monde est
suivre
prêt à
un
jouer.
Inconnu.
Si, les gens, ils sont prêts à jouer et ils aiment bien découvrir. Après, c'est aussi ce que j'en fais, le fait que je l'utilise, que je m'en sers dans mes projets. Mais je pense que c'est un goût partagé.
Ben, y a un côté enquête policière, méthode de travail et abolition de votre propre volonté dans la définition de votre art,
c'est
Sophie
Kahl. Pas vraiment l'abolition de ma propre volonté, puisque c'est moi qui décide des règles du jeu. Donc après, je décide de me couler dans cette règle, mais c'est quand même moi qui décide de tout au préalable.
C'est ce que vous croyez peut-être, mais au fond, vous vous abandonnez.
Je m'abandonne dans quelque chose que j'ai entièrement dessiné.
Dessiné et décidé.
Et décidé.
Par exemple, quand vous faites cette expérience, je ne sais plus il y a combien de temps, mais c'était pas il y a pas mal de temps, vous invitez des inconnus à dormir dans votre lit.
Oui.
Vous décidez de quoi et vous allez jusqu'où ?
Je décide... Ben là encore, là on parle de deux projets qui ont lieu en 79 ou en 80, donc c'est vraiment... On remonte loin. Je voulais, c'était au même moment que la suite vénitienne et je voulais, je ne sais pas ce que je voulais en fait. C'était avant que je décide d'être artiste. Je voulais trouver des façons de prendre des photos. Je ne sais pas exactement ce que je voulais.
Comment êtes-vous devenu artiste ? Comment ça s'est passé la première fois ?
La première fois, ben justement, j'ai fait dormir des gens dans mon lit. Je connaissais pas suffisamment de gens. Je venais d'arriver pour faire appel à mes amis. Donc, j'ai fait appel à beaucoup d'étrangers, entre autres, une jeune femme que je croisais au marché de la rue Daguerre régulièrement. Elle est venue dormir parce qu'elle m'avait trouvé sympathique. Et elle était la femme d'un critique d'art qui s'appelait Bernard Lamarche-Vadel. Et elle lui en a parlé. Donc, j'ai eu vraiment, c'est un coup de bol. C'est lui qui est venu me voir à quoi ça ressemblait, qu'est-ce que j'avais comme idée, et qui m'a proposé d'exposer à la Biennale des Jeunes au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris quelques mois plus tard. C'est donc lui, en quelque sorte, qui a décidé. Je le serais sûrement devenu, mais peut-être que j'aurais pris plus de temps.
Eh bien, nous allons vous proposer d'écouter la voix de Bernard Lamarche-Vadel, qui était un immense critique d'art, qui était aussi un grand écrivain. Il va parler de ce que ça veut dire la nature de l'art. C'est une archive INA du 26 mai 1993.
Ce qui est la grande affaire de ma vie, c'est l'art, ça c'est sûr. Je crois que l'on doit me reconnaître cette sincérité que j'ai vis-à-vis de la représentation de l'art. Je ne saurais peut-être pas en donner... la conclusion, je ne saurais peut-être même pas en donner la définition, mais à travers une multitude d'entrées que je découvre, je cherche à saisir ce que peut être la nature de l'art. C'est-à-dire la nature de ce que certains individus, par le travail de la forme, cherchent à exprimer du mystère que représente la réalité pour eux. Je crois que tout ce travail que je fais dans la critique d'art a été extrêmement important pour moi, dans la mesure où ce travail était placé dans la perspective de devenir moi-même artiste. C'est peut-être ma seule originalité d'ailleurs dans la critique d'art, c'est qu'au fond la critique d'art pour moi n'a jamais été une fin en soi. Elle a été un moyen d'abord de murmurer que j'étais artiste, et ensuite de me préparer à le devenir.
Alors nous venons d'entendre la voix de Bernard Lamarche-Vadel. Sophie Kahl, il parle de la nature de l'art. Il dit qu'il a été critique d'art pour devenir lui-même artiste. D'ailleurs, il l'est devenu. Il s'est accompli comme artiste. ce terme de nature de l'art, vous le définiriez comment ?
Ah, moi, je le définis pas, ça. Je pourrais pas vous répondre.
Ça vient ou ça vient pas ? On est artiste, N-A-I-T, au sens de naître, artiste, ou on devient artiste ?
Bah, mon cas est un petit peu particulier, parce que mon père était collectionneur d'art contemporain, donc c'était pas un territoire qui m'était totalement étranger. Je sais pas ce qu'il serait advenu si j'étais née dans une famille où il n'y avait pas un contact comme ça. J'ai vu des tableaux quand j'étais petite, mon père m'a parlé d'art, donc c'était, voilà, ça m'était d'une certaine manière familier.
Et en même temps, vous avez mis beaucoup de temps pour retourner à l'art. Vous avez fait votre propre cheminement à la fin de votre adolescence, au début de l'âge adulte. Vous disiez vous-même tout à l'heure que vous ne saviez pas très bien où vous alliez, ce que vous alliez faire de votre propre vie. Donc ça n'a pas été un chemin tout droit, ça a été un cheminement plutôt obscur à l'intérieur de vous.
Oui, ça n'était pas conscient, ça n'était pas clair. C'est pour ça que je dis que la marche Vadel m'a rapproché ce moment, cette conscience. Mais je pense que j'y serais arrivée plus tard sans lui, mais beaucoup plus tard. Mais je pense que j'y allais parce que moi j'étais proche de mon père, je voulais lui plaire, je voulais faire des choses qui lui plairaient et que c'était le meilleur moyen.
Donc il fallait être artiste pour pouvoir plaire à votre père.
Il y avait sûrement d'autres moyens, mais par rapport aux moyens que moi j'avais, oui, c'était le meilleur moyen.
Mais à quel moment vous en êtes-vous rendu compte ?
Quand je suis revenue en France à 26 ans et que j'ai vu qu'il n'était pas vraiment satisfait de moi.
Oh, mais un père est toujours satisfait de sa fille.
Plus ou moins. J'ai pas dit qu'il ne m'aimait pas. J'ai dit qu'il n'était pas satisfait, mais un père...
Vous vouliez l'épater.
Je voulais lui plaire, pas l'épater. Épater, je sais pas ce que c'est, mais je voulais lui plaire.
Et ça voulait dire quoi, plaire à son père ?
Je voulais qu'il ne m'aime pas simplement parce que j'étais sa fille, mais pour d'autres raisons.
Eh bien, je vous propose d'écouter la voix de votre père, qui s'appelait Robert, mais tout le monde l'appelait Bob Kahl. Il va parler de sa passion de collectionneur d'art. C'est une archive INA du 2 mars 2006.
Quand on n'a pas énormément d'argent, et d'ailleurs, même quand on a beaucoup d'argent, on est obligé de faire des choix. Bon. Et ces choix vous posent quelquefois, il y a des choix qui m'ont posé, est-ce que j'achète ça, est-ce que j'achète pas ça, est-ce que j'achète ça ou est-ce que j'achète un tel. Alors, à un moment donné, on se choisit, naturellement, on en laisse tomber. Alors, quelquefois, c'est deux bons, mais on en laisse tomber. Alors, si on avait un peu plus d'argent pour acheter les deux, mais à ce moment-là, on aurait un troisième.
Quand on collectionne, est-ce que l'idée de spéculation est présente ?
Au début, pour moi, elle n'a pas du tout été présente. Mais quand ça augmente, naturellement, on est content. Et là, forcément, on pense, si on est content, c'est qu'on pense à l'argent. On est content, et en même temps, on est content, parce qu'on se dit, s'il augmente trop, je ne pourrai plus l'acheter. J'ai acheté toujours des jeunes, mais pour quelle raison ? Parce qu'ils étaient bon marché. J'achèterais bien maintenant un Schwitter, mais... Et quand j'ai hésité pour l'acheter, c'était tout à fait accessible.
Nous venons d'entendre la voix de votre père, Bob Kahl, c'était au micro d'Elisabeth Couturier. Vous avez vécu une enfance, une adolescence au milieu des œuvres d'art. Votre père venait de le dire, il choisissait les jeunes. Est-ce que cet apprentissage du regard du monde artistique dès le plus jeune âge a contribué, à votre avis, au développement ? Ou alors, est-ce que, comme certains enfants qui sont pas forcément captivés par ce qu'aiment leurs parents, vous n'y portiez pas une grande attention à ces tableaux ?
À l'époque, je n'y portais pas une grande attention parce que j'étais en rébellion, comme on l'est, voilà. Quand j'ai commencé à devenir artiste, j'ai vraiment tenté d'imiter ce que je voyais sur les murs. Il y avait beaucoup de photos avec des textes, comme des photos de Dwan Michaels. J'ai pensé que c'était à ma portée de faire des photos et d'écrire, par exemple. Et j'essayais vraiment de faire comme ce que je voyais. Il aimait bien les choses bricolées. Il mettait des punaises sur les photos. Il aimait mélanger une œuvre importante avec une carte postale. Je pense que j'ai, 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 oui, j'ai, j'ai aiguisé mon regard sur ces murs, c'est certain.
Quelle est la première œuvre d'art que vous avez fait voir à votre père ?
Que j'ai fait voir une de mes œuvres d'art. Alors, je pensais pas que c'était une œuvre d'art. C'est un dessin que j'ai fait quand j'avais 6 ou 7 ans. Et c'est très étrange. Il me l'a redonné. Je lui avais offert, il me l'a rendu. Et au dos du dessin, il y a un texte. C'est-à-dire que j'ai fait la légende de mon dessin. Et c'est très écrit. Donc c'est amusant parce que la première chose que j'ai faite, c'est un dessin avec un texte.
Êtes-vous sûre, Sophie Kahle, que votre père était vraiment votre père ?
Oui, j'étais sûre assez vite. J'ai pensé qu'il n'était pas mon père quand j'étais petite parce que j'avais trouvé une lettre en fouillant dans le courrier de ma mère qui était signée d'un écrivain qui venait souvent nous voir et qui avait signé « Qu'allons-nous faire de notre petite Sophie pendant les vacances ?» Et le « notre » était souligné. Donc j'en avais déduit que c'était lui mon vrai père. Et puis donc j'ai passé une année assise sur ses genoux à attendre qu'il ne me fasse des aveux, qu'il ne pouvait pas faire forcément, puisque c'était... Puis on a commencé à me dire que je ressemblais beaucoup à mon père, et puis je me suis attachée de plus en plus à mon père. On ne vivait pas ensemble. Et puis j'ai oublié cette fausse ascendance 2-3 ans plus tard.
Vous êtes artiste, cela veut dire pour vous, Sophie Kahle, vous êtes écrivaine, photographe, plasticienne, interprète. Est-ce que cette multiplicité de registres est arrivée progressivement ou est-ce que c'était là déjà depuis l'enfance, comme vous venez de le dire avec le dessin d'enfant et l'écriture derrière ?
Non, rien n'était là depuis l'enfance. Le dessin, c'était une exception. Et puis ensuite, ce sont les sujets qui ont imposé leur technique. Ça n'est pas un choix délibéré.
C'est votre vie ?
C'est les sujets. Par exemple, le premier film que j'ai fait, No Sex Last Night, c'est parce que mon mari rêvait de faire du cinéma. Enfin, celui qui est devenu mon mari rêvait de faire du cinéma. Et que donc, là encore, peut-être pour le séduire, j'ai proposé de faire un film pour qu'il me suive. Donc le film, c'était une manière de lui donner envie de me suivre, oui. Et puis, là, je viens de faire un disque. Je ne sais pas si c'est à ça que vous faisiez allusion. Mais
si, on va l'entendre tout à l'heure.
Bon, ben, j'ai fait un disque sur mon chat qui est mort. Enfin, j'ai fait un disque. J'ai organisé un triple vinyle en demandant à des chanteurs. Ben, c'est parce que j'avais deux copines qui étaient Laurie Anderson, que vous venez de passer, et puis Camille. Camille a chanté une chanson à mon chat pendant qu'il mourait. Elle était là quand on lui a fait la piqûre et elle lui a chanté une chanson à l'oreille pour l'accompagner. Donc je lui ai demandé d'en écrire une pour lui, à Laurie également. Et puis une fois que j'avais ces deux chanteuses qui m'avaient fait une chanson, je me suis demandé pourquoi m'arrêter là. Et puis ensuite, une fois que j'avais 30 chanteurs, je me suis demandé pourquoi ne pas chanter moi aussi. Donc voilà, les choses se font par à-coup. Il ne s'agit pas de décision proprement parler,
ouais,
ça
mais
se fait.
Vous y arrivez, vous savez tout faire. Vous savez chanter, vous savez faire du cinéma, savez faire de la photo, vous savez faire des enquêtes, et vous avez la faculté étrange pour des personnes qui ne rentreraient jamais dans un musée et qui viendraient voir pour la première fois une de vos expositions, comme ça se passe en ce moment à Marseille, d'avoir des visiteuses et des visiteurs qui sont très frappés. Et moi, j'éprouve la même chose hein, quand je vais voir vos expos. Très frappée par une sorte de pacte de loyauté que vous faites avec les personnes qui vont venir regarder votre travail et qui, quelquefois, se mettent à pleurer. Alors, pourquoi vous recherchez ça, vous ?
Non, je cherche pas... Non, je recherche pas ça. Là, je pense que vous faites allusion à l'expo à Marseille des habitants d'Istanbul qui n'ont jamais vu la mer. Là, en l'occurrence... C'est un sujet sur lequel je suis tombée vraiment par hasard, puisque j'étais à Istanbul et on m'a lu un article de journal qui parlait de ces gens qui sont tellement coupés de tout, tellement pauvres, tellement dans la misère absolue, qu'ils n'ont même pas parcouru les quelques kilomètres entre eux et la mer, puisqu'Istanbul est quand même une ville dominée par l'eau. Et je les ai filmés avec Caroline Champetier,
chef opératrice.
Je lui ai demandé de venir le faire avec moi parce que j'ai demandé à ces gens j'ai emmené ces gens regarder la mer pour la première fois de leur vie et je leur ai demandé donc de regarder la mer et de se tourner vers moi quand qu'il le souhaiterait pour me montrer ce regard, ses yeux qui venaient de voir la mer pour la première fois. Et évidemment, on ne pouvait pas faire plusieurs prises puisqu'il n'y avait qu'une première fois. Donc j'ai préféré assurer ces images grâce à Caroline. Mais là, en l'occurrence, ça n'était pas un projet lié à ma vie. C'est un projet que j'ai rencontré un petit peu par hasard à cause de cet article de journal. Et je ne sais plus ce que vous me demandiez.
Voir, c'est très
Pourquoi
important.
Pourquoi est-ce que les gens pleurent?
Oui.
Parce que c'est bouleversant, parce que même pleurent après avoir vu la mer, certains.
Je me souviens d'une de vos expositions, c'était au Centre Pompidou. C'était autour du thème de voir, parce que le thème de voir, savoir regarder ce qui nous entoure, c'est absolument essentiel à l'intérieur de votre démarche. Vous savez voir. Et en tout cas, vous savez nous faire comprendre ce que ça veut dire voir en proposant, par exemple, à des aveugles, fallait y penser, de décrire
ce qu'était l'image de la beauté. Enfin, j'ai fait plusieurs projets. Il y en a un plus ancien qui, je leur ai demandé donc de me dire ce que c'était que la beauté à leurs yeux. Et puis, quelques années plus tard, à Istanbul, justement, j'ai demandé à des aveugles qui, cette fois, n'étaient pas nés aveugles, mais qui étaient devenus aveugles de manière brutale et soudaine, de me dire quelle était la dernière image qu'ils avaient vue. Et dans les deux cas, j'ai tenté de faire ces images, soit celle de la beauté, soit la dernière image, et ainsi que leur portrait et le récit, leur réponse.
Je vous propose d'écouter un petit best-of Sophie Calle. On pourrait peut-être commencer par un court extrait de ce film que vous avez tourné qui s'intitule « No Sex Last Night ».
Lui avec ses shorts et ce machin sur la tête, et moi dans mes caleçons, on ne peut pas dire qu'on fasse de gros efforts de séduction. Un peu triste, mais peut-être est-ce mieux ainsi. Je ne sais pas comment ça a commencé. Peut-être m'a-t-il demandé si Charleston m'avait déprimé, et j'ai dû répondre « Non, c'est l'échec qui me déprime ». Il a dit alors que le mot était trop dramatique, que le fait d'être sincère avec moi n'était pas un signe d'échec, et j'ai répliqué que de n'être pas désiré, c'était un échec. Cela aurait pu être une conversation déterminante, mais je me suis endormie. No sex last night.
Last night we heard a new noise under the hood. First stop today is a mechanic.
Give me a long screwdriver, darling.
On dirait qu'il assiste à l'accouchement de sa femme.
What's usually good, I... I'm surprised this happened.
Hey, all right. Have a good day now. Thank you.
So?
Nice guy.
This time it was the power steering mount.
We had a nice lunch at Mrs. Wilkes.
We're all just one big family over here.
Later, I turn west without thinking about it. We won't go to Miami.
Alors, ce film n'a pas pris une ride, No Sex Last Night. On pleure, on rit. D'ailleurs, souvent, avec vous, Sophie Calle, on pleure, on rit, et de nouveau, on pleure, parce qu'on est très, très ému. Vous avez parlé de votre mari. Vous avez proposé à votre époux de partir en voiture. Et puis, finalement, pour essayer que votre histoire d'amour continue encore un peu. Mais ça a été un échec retentissant.
Ben non, puisqu'on a fait un film ensemble.
Oui, mais pas l'amour.
Si, d'une certaine manière, tous les deux, quand on regarde en arrière, on a ce film qu'on a aimé faire, dont on est fier.
Parce que vous avez des relations toujours avec votre ex, alors?
On se parle. Peu, mais on se parle. Et vous me ramenez trop en arrière, vous me parlez que de choses qui ont 30 ans.
Alors je vais vous parler d'aujourd'hui, vous allez vous écouter.
Le chuchotis de tes griffes dans notre escalier me disait que c'était toi. L'espace encore chaud imprimé dans mes oreillers me disait que c'était toi. La folle inquiétude quand tu disparaissais, mais la douce habitude qui toujours te ramenait c'était toi. C'était toi. Les sensations manquantes te remplacent. Les sensations manquantes ont pris ta place. Les sensations manquantes te remplacent. Les sensations manquantes ont pris ta place.
Alors c'est un hymne d'amour pour votre chat, un chat que j'ai connu, que j'ai eu la chance de connaître, un chat qui hélas n'est plus, un chat qui vous avait rendu hommage de nombreuses façons, et ça c'était récemment, en faisant notamment une installation, une tombe pour votre chat. Oui. Non mais parce que c'est pas évident de faire une tombe pour son chat, hein.
Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, les chansons sont venues presque sans le décider quand Camille.
Mais arrêtez de dire que vous faites tout comme ça sans l'avoir décidé.
Non, mais Camille qui se
penche. Tout le monde est artiste alors.
Non, non, tout le monde n'est pas artiste, mais moi je me sers beaucoup d'événements de ma vie. J'ai pas dit que tout le monde pouvait faire des choses sans le décider. Après, il y a le style, il y a la manière d'écrire, il y a les photos qu'on prend. Il n'y a pas simplement la décision de faire quelque chose.
Vous travaillez beaucoup ?
Oui, beaucoup, oui.
Vous êtes une élève avant de rentrer dans une nouvelle discipline, une élève studieuse, par exemple pour le chant.
Ah non, j'ai pas du tout. Je suis élève de rien du tout. On a fait la première prise là. Enfin, je veux dire, ça a été une prise cette chanson. J'avais pas, mais j'ai toujours bien aimé chanter.
Et le chat.
Et le chat quoi?
Ben le chat. Comment vivez-vous sans chat?
Eh ben je vis sans chat. J'étais pas prête.
Vous auriez pu en prendre un nouveau.
J'aurais pu en prendre un nouveau, mais il se trouve
qu'il s'appelait Souris.
Il s'appelait Souris, oui. Mais en fait, au début, je n'étais pas prête à en prendre un nouveau, puisque je faisais ce projet. Je pense que ça aurait pas été correct de faire un projet sur la mort d'un chat avec un. Enfin, je sais pas. Ça
pour me le remplacer.
Pour le remplacer immédiatement. Et puis ensuite, il se trouve que j'ai eu, depuis qu'il est mort, deux années où j'étais particulièrement absente. Donc là, je cherche une manière d'en avoir un à nouveau sans être trop dépendante par rapport à mes déplacements. C'est un peu compliqué. Moi, je vis seule, donc.
Mais vous avez bien des amis qui peuvent. Oui. Récupérer votre chat.
Oui, mais enfin, bon, un chat, ça bouge pas comme ça, moi.
Mais en fait, vous voulez pas le partager. C'est à la vie. Tous les deux.
Oui, mais c'était tous les deux, oui.
Alors, vous écoutez.
C'est un peu absurde, comme ça, de parler mon chat, de mon amour pour mon chat.
C'est pas absurde. Bon. La preuve, vous en avez fait une œuvre d'art.
Oui, justement, j'en ai fait autre chose.
Oui, mais il a fallu combien de temps à l'intérieur de votre mémoire pour décider d'en faire une œuvre d'art et un dispositif artistique ?
Non, ça s'est fait assez vite, mais ce qui a été long, par contre, c'est de contacter 30 chanteurs, les maisons de disques et tout le bordel autour, quoi. Sinon, la décision, c'était assez rapide, oui.
Fréquentez-vous souvent les cimetières, Sophie Kahn ?
Oui, j'ai toujours fréquenté les cimetières, d'une part parce que j'habitais d'un côté du cimetière du Montparnasse et que mon école était de l'autre. Quand j'étais petite, ma mère, c'était notre jardin public, c'est l'endroit où on se baladait, parce qu'il y a peu de parcs à Paris, et voilà, on habitait contre le cimetière du Montparnasse. Et puis, j'ai toujours, quand je vais dans une ville, je vais toujours voir le cimetière d'abord, j'ai l'impression de comprendre mieux la ville. Et puis, j'ai fait beaucoup de photos dans des cimetières également, donc j'ai pris l'habitude, j'ai fait des photos dans tous les cimetières que j'ai visités, c'est-à-dire dans toutes les villes que j'ai visitées.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Sophie Kahl, c'est Stéphane Escher.
Oh mais c'est encore mon cher. Mais c'est encore mon cher, me dit-elle tout à coup, me dit-elle tout à coup. Je me sens de vous prisonnière, et je me sens de vous prisonnière. Faites-moi ce que vous, faites-moi ce que vous. Donne-nous rendez-vous à la rivière. Donne-nous rendez-vous à la rivière. Lavons-nous de la boue. Lavons-nous de la boue. Prenez-moi dans vos bras, mon cher. Prenez-moi dans vos bras, mon cher. Et oublions tout. Et oublions tout. Et tenons-nous debout dans la lumière. Et tenons-nous debout dans la lumière. Soyons prêts à tout. Soyons prêts à tout. Il en va de la vie de nos mères. Il en va de la vie de nos pères. Il en va de nous. Il en va de nous. Prisonnière, oh, je me sens de vous prisonnière. Faites-moi ce que vous, faites-moi ce que vous.
Beau. Alors vous, vous êtes une amie fidèle, Sophie Kahl.
J'espère, oui.
Et Stéphane Escher, vous l'avez rencontré depuis longtemps. On vient d'entendre cette superbe chanson qui est son dernier album, qui vient juste de sortir.
Elle n'est pas sortie, cette chanson. Il l'a chantée une fois à France Inter, je crois, et puis il l'a chantée une fois là au Grand Rex, mais elle n'est pas sortie encore. J'ai dû lui demander de me l'envoyer pour la voir là, pour vous.
Ben quel beau cadeau. Vous êtes sensible aux voix?
Oui, puis je suis sensible à Stéphane, moi je l'aime.
Pourquoi?
Alors là, quelle question. J'aime sa pensée, sa voix, j'aime tout.
Depuis combien de temps?
Ah, ça fait longtemps quand même, c'est une vieille amitié. C'est une, je ne sais pas exactement, peut-être une vingtaine d'années, je ne sais pas, c'est une vieille amitié. Il était venu me voir pour une émission de télévision, on lui avait demandé qui il souhaitait rencontrer. Et c'était moi, donc j'ai reçu les gens de la télé, mais sans lui. Et donc j'ai fait un message en disant, c'est merveilleux, merci, mais est-ce que je pourrais pas vous voir, vous aussi? Et voilà, c'était le début.
Alors il y a beaucoup de gens qui veulent vous rencontrer, Sophie Kahl. Ils ont des tas de choses à vous dire. Et parmi elles, il y a un artiste qui est aujourd'hui reconnu, mais que vous avez rencontré quand il n'était pas du tout connu. Nous lui avons demandé de parler de vous. Il s'appelle Jean-Michel Autoniel. Écoutez.
C'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a très longtemps maintenant, il y a environ une trentaine d'années, quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts. Et elle était venue faire une conférence sur son travail. Et c'est vrai que Sophie apporte la façon dont elle présente son travail, c'est ça que je veux dire, fascine beaucoup les audiences en général, parce que c'est une conteuse, elle sait parler de ses histoires, elle sait nous prendre comme ça, nous conduire par la main à travers toutes ces grandes expériences qu'elle mène et qui à la fin sont des œuvres d'art. Donc moi en tant qu'étudiant, j'étais complètement sous le charme de Sophie en 86, je crois, quelque chose comme ça. Et j'étais tellement fasciné par elle que je l'avais entièrement dessiné pendant la conférence. J'avais dessiné son pull, le pantalon qu'elle portait, ses chaussures, voilà. Mais j'avais pas osé lui parler. Et 2 ans après, elle est revenue à Cergy-Pontoise où elle présentait son travail, représentait son travail une deuxième fois. Et là, j'avais un peu mûri et j'avais encore le carnet avec tous ses dessins de l'époque. Il se trouve qu'elle portait les mêmes chaussures que 2 ans avant. Donc je suis allé la voir et je lui ai dit, mais ça m'étonne beaucoup, vous portez les mêmes chaussures qu'il y a 2 ans. Et là, elle m'a dit, mais pas du tout, parce que Sophie est très coquette, elle aime bien s'habiller, quoi. Donc, elle était un peu vexée, et je lui ai dit, mais si, regardez, j'ai la preuve, voilà, vos chaussures, j'ai le dessin. Et donc, ça l'a beaucoup intriguée, elle a demandé à voir mon travail, et c'est comme ça qu'on a commencé à se rencontrer, c'est-à-dire qu'elle est venue dans mon atelier, elle a vu les photos que je faisais à l'époque, elle m'avait demandé de faire un échange d'une photo contre une photo à elle. Et donc, c'était pour moi un rêve qui se réalisait, parce que c'est vraiment une artiste qui compte beaucoup pour moi et qui comptait et qui compte toujours. Je crois que son dernier livre, Que c'est vous de vos morts, est malheureusement d'actualité, et je pense qu'elle elle saura à qui je fais allusion et elle verra ce qu'elle répond ou pas. Voilà.
Vous lui avez parlé aujourd'hui?
Oui, c'est la question. Est-ce que vous effacez le contact? Oui, ça se pose de façon dramatique aujourd'hui, puisque je pense qu'il parle de la mort de Xavier Barral, qui était mon autre éditeur avec Actes Sud. Et j'ai. Enfin, c'était. J'ai du mal à en parler, c'était l'homme des livres impossibles, c'était un homme qui, enfin, d'abord il fabriquait les livres avec vous, en général il avait une idée, il vous en parlait, puis il vous laissait parler de tout ce que vous vouliez faire, et il vous disait que c'était très intéressant, toutes vos idées, et puis à la fin, c'était la sienne qu'on prenait, parce que c'était toujours la meilleure. Et je pense qu'il est réellement, il va être difficile à remplacer. Oui, c'est drôle parce que j'ai reçu pas mal de messages à la suite de sa mort. On s'écrit tous et tout le monde, mais des dizaines de messages ne parlent de son talent. Il savait, quand on faisait un livre avec lui, il faisait à la fois la direction artistique, mais il avait une pensée esthétique, il voyait où le livre devait aller, et puis il s'occupait aussi de faire les photos pour le livre, parfois, quand il en manquait, et puis ensuite il réfléchissait à la fabrication du livre, c'est lui qui allait voir parfois au bout du monde, quand on a fait Rachel Monique, il nous fallait
Monique, c'est le livre sur votre mère.
Oui. C'était un livre compliqué à produire, on voulait le broder, on voulait pas mal de choses assez complexes. Il a été voir à peu près tous les fabricants en Europe, en Italie, au Portugal, en Espagne. Il a fini par aller en Asie et puis il a trouvé la personne qui pouvait faire tout ce qu'on voulait, tranquillement, comme ça, sans montrer tout le travail absolument gigantesque que ça avait représenté de faire ça. Et donc, c'était intéressant parce que, et aussi, il connaissait l'économie du livre, donc il pouvait aussi gérer le livre par rapport à cette économie, à ce qui était réalisable ou pas. C'était vraiment un éventail de qualité incroyable.
Alors, il y a ce livre qui sort aux éditions Actes Sud, qui s'intitule « Que faites-vous de vos morts ?», qui est toujours l'essence même de votre art, Sophie Kahl, c'est-à-dire que vous engagez un projet, vous le réalisez, mais ce projet va provoquer des rebondissements et des rebonds artistiques. Il n'est pas clos sur lui-même. C'est exactement comme un galet qu'on va lancer sur une mare assez lisse, il va rebondir. Au départ, il y a eu des installations de tombes. Vous avez parlé de votre mère, vous avez parlé de votre père. Et les cimetières, ça vous connaît. Vous en avez fait des actes artistiques. Là, vous aviez fait une installation à partir de tombes. Et là, ça devient un livre absolument incroyable parce que à partir des inscriptions et des installations de ces tombes, vous avez laissé la possibilité aux visiteuses et aux visiteurs de dire ce qu'ils feraient de leur mort. Et ça donne un florilège absolument incroyable.
Oui, j'étais pas sûre qu'il y ait un livre au bout du compte. En fait, j'avais commencé par cette phrase que vous avez citée au début de l'émission, que faites-vous d'un mort? Est-ce que vous effacez le numéro? Et puis, j'avais fait une salle en hommage à mon père qui venait de mourir. Et donc, j'avais mis des tombes qui disaient père, father, 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 partout. Et puis, en effet, j'ai eu l'idée j'ai demandé à Actes Sud de fabriquer des livres blancs avec des photos de tombes, quelques textes que j'avais écrits, mais des pages vierges. Et j'ai demandé aux gens, que faites-vous de vos morts? Je n'étais pas sûre de la qualité des réponses. Enfin, finalement, les gens en ont rempli enfin, à peu près 15 ou 16, je crois, des livres. Et je suis allée piocher dans ces réponses pour fabriquer ce livre.
Que faites-vous de vos morts? Page blanche de Sophie Kahl. Réponse des visiteurs et des visiteuses. Je leur pardonne. Et j'en aime d'autres. Ou une autre, je n'en ai pas encore beaucoup, j'ai de la chance. C'est comme une bibliothèque qui est encore presque vide. Quand je vais commencer à devoir faire des doubles rangées, je ne sais pas qui je vais mettre devant. Quand j'étais petite, je dansais sur leur tombe. Un jour, on m'a dit que c'était mal. Pourtant, ils sont morts, on ne peut plus leur faire de mal. Et ça, cette espèce de... J'aime pas ce mot, hein, excusez-moi de l'employer, de interactivité, mais en tout cas de réaction que vous demandez à vos créations, c'est quelque chose qui fait partie de votre sève artistique, Sophie Kahl. Vous proposez des choses, mais vous aimez savoir ce que ça va provoquer à l'intérieur de chacun d'entre nous.
Oui, peut-être aussi. Enfin, je pose souvent des questions aux gens, en effet. Je me sers beaucoup de ceux qui acceptent de me répondre. Peut-être parce que... Enfin, c'est pas par modestie que je dis ça, mais c'est peut-être parce que je suis pas capable d'écrire réellement et que j'ai besoin parfois du texte des autres. Enfin, j'aime beaucoup écrire, mais je ne suis pas capable d'inventer, disons. Donc, je peux écrire des choses qui m'arrivent, qui se passent. Je peux les décrire, mais je ne suis pas capable de partir comme ça sur un sujet et de j'ai besoin des autres, je pense. J'ai besoin. Par contre, j'aime beaucoup travailler avec cette matière, qui sont les réponses des autres. Parfois, d'ailleurs, jouer avec, sélectionner, éditer, transformer les textes. Mais j'ai besoin des autres pour le texte, souvent.
On va se quitter par un de vos textes qui est à la fin de ce volume « Que faites-vous de vos morts ?» Il y a chez moi près d'une centaine d'animaux naturalisés auxquels j'ai donné les noms de ceux qui me sont proches. Entre-temps, 10 sont morts. Hervé, le singe vert parce que le sida, Manolo, le chien parce que l'amour inconditionnel, Denis, le petit taureau parce que la même présence et l'amour de la corrida, Jean-Marie, la chouette parce que lorsqu'il était ivre, il grimpait dans un arbre et il s'endormait sur une branche, David, le paon, parce qu'il était flamboyant. Jean, le chat, parce qu'il les adorait et que je lui refilais les miens quand je ne pouvais pas les garder. Mon chat, souris. Le bébé Zep, parce que tous les deux, noirs et blancs et irrésistibles. Lou, le crapaud, juste parce que ce crapaud tient un micro.
Et maintenant, il y en a 11.
J'ai pensé. Ça sera Xavier.
Xavier, c'était un tout petit oiseau qui s'était lui-même choisi en venant chez moi parmi les animaux qui étaient disponibles, si je puis dire. C'est lui qui s'était choisi son animal.
Vive la vie. Merci infiniment, Sophie Kahl. Vous êtes vraiment formidable. Je rappelle qu'il y a 5 expositions en ce moment même à Marseille, un véritable itinéraire, un voyage et même une odyssée. Et puis la publication de ce livre qui s'intitule « Que faites-vous de vos morts ?» et qui vient d'être publié aux éditions Actes Sud.
C'était cool, mais oh, en gros, mais...
C'était Juliette, Juliette Armanet et son titre « Cool Cat », une dédicace au chat de Sophie Calle, présent d'ailleurs dans son album « Souris Calle ». Merci à toutes et à tous, merci à Maxime Ingrand qui était à la technique ce soir, merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux, merci à Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Antoine Joubert, et merci à Lilian Allôme qui a réalisé cette émission. Après le prochain journal d'information, vous avez rendez-vous avec Mishka Sayas pour la suite de son Very Good Trip.